Alors, notre prochain orateur, c'est Pierre Laury, qui est donc aussi directeur de recherche à l'EPHE et membre fondateur de cette association et de ces journées, et à qui donc nous devons d'être là, entre autres, à qui nous devons d'être réunis ici, qui est spécialiste de, à la fois de philosophie et de mystique musulmane. Et il n'y avait pas mieux que lui pour nous parler de l'homme parfait à travers la figure du prophète.
Bien, j'espère que tout le monde est bien installé. Je crois qu'il y a des places qui se sont libérées, donc profitez-en. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus si nombreux. Là, mon propos sera de parler de Mohammed comme homme parfait, mais je vais me concentrer plus particulièrement sur une des figures du soufisme classique ancien, qui en a précisément traité parmi les premiers. Il s'agit de Hallaj, précisément, dont Christian Jambé a parlé en conclusion de son exposé, donc cela tombe bien. Historiquement, la figure de Mohammed a évolué beaucoup à travers les premiers siècles de l'islam. Je parlerai surtout du courant sunnite. Le courant sunnite s'est constitué en réaction à deux courants qui ont surgi assez tôt. Le premier était le chiisme. Les chiites affirmaient que, après la mort de Mohammed, il y avait des successeurs légitimes, non seulement des successeurs légitimes politiquement, mais aussi religieusement, qui étaient les imams. Et les imams étaient considérés comme des chefs inspirés par Dieu, infaillibles. Et donc, face à cette affirmation chiite, le sunnisme s'est en quelque sorte défendu en posant la figure de Mohammed comme la seule autorité, la seule instance infaillible. De la même manière, les tendances rationalistes en théologie spéculative, comme le mortazilisme, ont commencé à affirmer l'autonomie de la raison pour parvenir aux vérités religieuses. Et pour se défendre là aussi contre cette tendance rationalisante, ce qui est devenu le sunnisme a déclaré que la raison était une faculté erratique, fragile, et qu'en fait, avant d'utiliser la raison, il fallait avoir recours à l'enseignement du prophète infaillible, du prophète Mohammed. Donc, c'est produit ce vaste courant que vous connaissez de collecte des paroles du prophète, des collectes des enseignements du prophète sous forme de hadith, qui ont donné lieu à un immense mouvement, disons, d'érudition, et qui a abouti à la formation du droit. Mais ceci dit, ce hadith n'a pas abouti seulement à la formation des écoles juridiques, la pensée juridique, mais a aussi beaucoup influé sur la spiritualité. On a vu proliférer ainsi toute une littérature pour magnifier le prophète dans ce qu'il avait d'unique. Et comme ça a éclos une littérature des privilèges du prophète, les khasa'is, qu'est-ce qu'il avait en propre, de ses vertus éminentes, les fada'il, de ses qualités intérieures, les shama'il al-nabi, des preuves de son élection, de la'il. Et donc tout ce processus a abouti à ce que un universitaire contemporain a appelé la chiitisation du sunnisme. De même, le courant spirituel en islam, qui allait devenir le soufisme, a été progressivement influencé par cette magnification, je ne sais pas si on dit, du prophète Mohammed. Le premier soufisme était, semble-t-il, fondé sur une attitude d'adoration exclusive de Dieu et de Dieu seul. Ainsi, rapporte-t-on de Rabi' al-Ardawiyya, la première grande mystique, donc elle est morte en 801, qui est une grande mystique, enfin, le début, disons, de la mystique musulmane, qui a les premiers proclamé son expérience de l'amour divin, de l'amour réciproque entre Dieu et le dévot, aurait répondu, lorsqu'on lui demanda comment elle considérait le prophète Mohammed, elle a répondu « Je l'aime, mais mon amour du Créateur m'a détourné de l'amour de ses créatures. » Une autre fois, elle aurait eu la vision du prophète en rêve, et le prophète lui demanda « M'aimes-tu ?»« Mourjabara, m'aimes-tu » Elle lui répondit « Ô envoyé de Dieu, peut-il se trouver quelqu'un qui ne t'aime pas ?» Et cependant, l'amour du Seigneur Très-Haut remplit tellement mon cœur qu'il n'y reste de place ni pour l'amitié, ni pour l'intimité envers n'importe quel autre. il s'est produit une évolution historique, en ce sens que cette adoration pour Dieu seul s'est progressivement trouvée comme pas doublée en quelque sorte par une dévotion envers le prophète, et avec l'idée que c'est à travers le prophète que finalement cette union à Dieu, cet amour pour Dieu allait se réaliser. Déjà au 9e siècle, enfin 3e siècle de l'Égypte, plusieurs grands soufis. Déjà au 3e, donc 9e siècle, des grands penseurs de la mystique musulmane, comme Toustari, avaient traité le sujet. Mais je voudrais traiter ici d'un de ceux qui en ont parlé le plus et le plus vivement et le plus clairement, si on peut le dire, et qui est précisément Hallaj. Hallaj, qui est mort exécuté en 922 de façon très spectaculaire après un procès qui a duré près de 8 ans. Hallaj, qui avait prêché dans plusieurs pays et qui avait des milliers de disciples, semble-t-il, qui prêchait les thèmes du soufisme à haute voix. Hallaj est connu pour sa fameuse déclaration « Je suis le Dieu réel, Analhaq ». Les textes dans lesquels Hallaj parle du statut du prophète Mohammed sont courts, mais ils sont décisifs. Ils ont été consignés dans un ensemble de très courts traités ésotériques appelés les Tawassin, qui ont récemment été réédités, traduits et présentés par Christian Jean-Louis. Oui, traduit par Ruspoli et présenté par Christian Jean-Louis. Massignon avait déjà étudié les Tawassin, bien sûr, et il avait dit de façon un peu sibylline que ce texte préfigurait déjà la doctrine de l'homme parfait telle qu'elle allait se manifester chez Ibn Arabi. À ma connaissance, Massignon n'a toutefois pas lié cette prophétologie sur Hallaj à son expérience d'union mystique. Alors qu'il me semble, c'est en tout cas ce dont je vais essayer de parler maintenant, que la phrase « Je suis le Dieu réel, Analhaq » s'adosse sur l'idée que le prophète, précisément, est la manifestation de Dieu en laquelle, peut-on dire, cette union à Dieu a lieu. Ce livre, les Tawassin, ont été sans doute rédigés peu avant l'exécution de Hallaj. Hallaj devait se savoir condamné, d'une certaine manière, il n'avait plus rien à perdre. Et dans ces Tawassin, qui sont d'un style très très, malgré tout très difficile, très elliptique, il s'est exprimé. Hallaj a pu s'exprimer en théologien, il a pu s'exprimer en poète, mais de toute manière, à la base même de son attitude, il y avait l'idée que le langage humain est incapable de rendre compte véritablement de cette expérience d'union à Dieu. L'Haq, le Dieu réel, est indéfinissable, il échappe à toute expression, toute représentation, c'est, si je puis dire, une espèce de trou noir du langage, et pour en parler, le langage se perd en paradoxe. Hallaj, d'ailleurs, n'a pratiquement pas arrêté de s'exprimer en paradoxe. Inexprimable ne veut pas dire, bien sûr, incompréhensible, et donc Hallaj s'est quand même attelé à l'idée de faire comprendre, à travers ce livre très, très heurté, quelque chose de cette marifa, de cette gnose. Hallaj donc affirme qu'il a fait l'expérience de cette annihilation en Dieu. Il affirme qu'il y a une gradation dans la connaissance mystique entre la science de la réalité, la science de la haqiqa, qui est la prémisse, disons, de la science mystique, la réalité, al-haqiqa elle-même, et puis al-haq, qui est le réel absolu, celui précisément dont on ne peut pas parler. Il exprime cela sous forme d'une parabole devenue très connue, la parabole du papillon. Il dit, il y a des papillons, donc ils se réunissent autour d'une lampe, certains papillons se rapprochent, ils restent dans la lumière, mais ils ont peur de la chaleur. D'autres papillons s'approchent, rentrent dans la chaleur, mais n'osent pas aller plus loin parce que la flamme brûle, bien sûr. Et enfin, certains papillons rentrent dans la flamme, se laissent consumer. Et donc, c'est cela qu'il veut dire en étageant la science de la réalité, la réalité, et puis le réel dans lequel se perdent les hommes qui se laissent donc consumer par l'expérience divine. Alors, cette expérience, visiblement, Hallaj se sent autorisé par cette expérience à parler d'autorité, puisque lui-même affirme qu'il a été consumé, il est revenu de l'intérieur de la flamme. Et cela pose problème au fond du lieu duquel il parle. Parce que si un mystique a été complètement consumé par la flamme en quelque sorte, il a forcément été à l'égal de tous les autres. On ne peut pas être consumé à moitié, on ne peut pas être anéanti à moitié. Par conséquent, Hallaj dit de façon tout à fait claire qu'il parle d'une connaissance que les prophètes avaient aussi, puisqu'il a connu cette présence de l'essence divine qui est attribuée, en tout cas, au prophète Mohammed qui l'aurait approché lors de son voyage nocturne. Alors, qu'en est-il de la prophétologie de Hallaj? Hallaj médite, disons, cette pensée, cette prophétologie, non pas pour compliquer, disons, de façon théologique, le statut, disons, de sa propre connaissance, mais pour montrer que c'est à travers l'expérience de Mohammed que cette consomption, cette union à Dieu, a lieu. Alors, Hallaj commence le Tawassul en affirmant, de façon tout à fait catégorique, disons, tout à fait claire, que Mohammed est une lumière parmi les lumières. C'est la plus ancienne, c'est la plus brillante, et il affirme de façon claire que cette lumière est préexistante au monde. Il insiste sur cette idée. Mohammed, au fond, existait avant toutes les autres créatures. Mohammed a été instruit par le Dieu réel, par le Haqq. Il vient du Haqq et il parle par le Haqq. C'est un point essentiel parce qu'on voit alors comment son expérience mystique va avoir lieu, puisque de toute éternité, Mohammed était déjà, en quelque sorte, présent, proche de l'essence divine. Mohammed est un dahr, dit Hallaj, un néon, pourrait-on dire. Sa science contient toutes les sciences. Sa science contient tous les moments de l'histoire. Il est lié à Dieu et exprime Dieu. Donc on voit déjà, dès le premier chapitre de Tawassin, que Mohammed serait, dès le départ, le plus en titre de dire « Je suis le réel, Analhaq ». Bien sûr, tout dépend du statut, de l'explication qu'on donne, bien sûr, à cette identification. Donc, Hallaj décrit la sortie de Mohammed hors du Haqq, sa descente dans la révélation, après, sa descente dans la réalité sensible. Donc, à partir de T, le prophète existait depuis la prééternité et sa parole est une parole divine. Il est incomparable aux autres prophètes, il est certainement le plus complet d'entre eux, puisque nous parlons de l'homme parfait. Mohammed est donc le modèle, voire la finalité de la création. Hallaj déclare, il est le guide et il est ce vers quoi nous sommes guidés. Huwa dalil wa huwa al-madlul. Mohammed est le guide, cela va de soi bien sûr pour tous les musulmans, puisque c'est lui qui est le vecteur de la révélation. Mais Mohammed est aussi celui vers lequel les croyants, enfin les mystiques en tout cas, sont guidés, parce que c'est lui qui est le modèle absolu, c'est lui qui est au fond la face de Dieu. Les croyants cherchent à atteindre Dieu, mais Dieu lui-même est tout à fait hors de portée. Ce qui est à la portée des croyants, c'est la face de Dieu, c'est Mohammed, enfin c'est l'aspect métaphysique de Mohammed. Dans ce sens, Mohammed est le madloul, ce vers quoi les croyants s'orientent. Bien sûr, cette affirmation doit être comprise de façon plus explicite, c'est à quoi s'est attelé Rusbaran Barkli qui a commenté le livre de Tawassin en expliquant, bien sûr, lorsqu'on considère les actes de Dieu, les attributs de Dieu, et l'essence de Dieu, on peut dire que tous les trois sont un. Donc, si on dit que Mohammed est ce vers quoi les hommes sont guidés, c'est bien sûr Mohammed en tant que manifestation des actes et des attributs divins. Mais en ce sens, conclut Rusbaran, Mohammed était en droit de dire, il cite un hadith, « Celui qui m'a vu a vu Dieu. » Man ra'ani faqad ra'a al-haq. Donc, celui qui a vu Mohammed a vraiment vu Dieu. Donc, on voit des considérations qui se rapprochent de celles qu'on vient d'entendre avec l'exposé de Leni Anra. On n'entend pas?
Encore plus?
Mais au fond, plus bas.
Mais après, il va être obligé de se pencher.
Pour que ça tienne.
Voilà.
Ah bon? Mais au fond, le but de ces évocations n'est pas de camper une prophétologie qui aurait du mal à trouver les fondements scripturaires. Parce que bien sûr, toutes ces affirmations, il n'est pas évident qu'on puisse les trouver présentes dans le Coran ou dans des hadiths. C'est quand même assez rare. Parce qu'il est ce vers quoi donc il guide les Tawassines, c'est qu'au fond, lui, Hallaj, a connu une expérience qui est celle de Mohammed, et que donc Mohammed est aussi un modèle d'expérience mystique. Il préfigure, je cite Massignon, il préfigure de plus en plus translucide de la vision. Mais dans quel terme et jusqu'à quelle limite Mohammed peut-il constituer un modèle? Bien sûr, il est le guide en tant qu'il est porte la révélation, et dans quelle mesure l'expérience spirituelle de Mohammed peut-elle être endossée par un soufi? Ici, Hallaj reprend dans un commentaire assez serré de la première partie de la sourate de l'étoile, de la sourate 53, où il est fait état d'une vision que le prophète aurait eue, et que, à la suite de bien d'autres auteurs mystiques, Hallaj considère comme ayant eu lieu lors de l'ascension mystique du prophète. C'est-à-dire que ces versets coraniques, qu'il n'y a pas lieu de commenter ici, ces versets coraniques se situent au moment où Mohammed, ayant traversé les sept cieux, va au-delà du septième ciel à la rencontre du mystère divin. Et donc, c'est en ce sens-là que l'expérience de Mohammed, est une expérience mystique, et surtout, c'est ce que là où Hallaj veut en venir, que c'est une expérience que d'autres hommes peuvent connaître. Hallaj décrit comment Mohammed a rejeté le monde sensible, comment il s'est tenu à cette frontière indicible entre la dualité et l'essence. Mohammed a rencontré Dieu. Il a vécu ce qu'a vécu le papillon. Quelque part, il a vécu donc cette expérience d'annihilation. Il a eu accès à ce réel qu'on appelle le haq, puisque il a eu accès à ce haram, au temple dans lequel personne ne peut pénétrer. C'est d'ailleurs sa dignité. Hallaj dira que Mohammed est le seul à avoir pu pénétrer dans le haram. L'expérience de Mohammed dépasse celle de Moïse. Mohammed a pu voir alors que Moïse n'a fait qu'entendre. Mais alors, qu'en est-il de l'homme qui n'est pas un prophète? Qu'en est-il de l'homme qui est issu du monde contingent? Et à ce moment-là, Hallaj invite son lecteur à le suivre. Et il affirme lui-même, donc, qu'il devient lui aussi un guide. Car en effet, il s'introduit dans ses spéculations et invite donc à la considération suivante. Dieu a préservé Mohammed de sa création. Mohammed est comme... Il est garanti, il est préservé. Bon, il est mansoum, bien sûr. Car en effet, il est lui, il est Anahou, et moi, dit Hallaj, je suis lui, et lui, et lui. Alors, que signifient ces différents pronoms? Et je crois qu'il est important de voir que précisément, le contenu n'en est pas explicite. On pourrait comprendre, alors là, Massignon... Ruspoli en des interprétations diverses. Donc le prophète et Houa, il est Dieu d'une certaine manière. Il est en tout cas la manifestation de Dieu, mais on peut dire précisément qu'il est Dieu, qu'il est Haq. Moi, je suis lui. Moi, je suis le prophète. Dieu, c'est comme ça qu'on pourrait comprendre. Moi aussi, je suis lui, je suis le prophète. Et lui, et Dieu, par contre, et lui-même. C'est-à-dire que Dieu, de toute façon, il est lui-même, et qu'il y ait des hommes qui soient en quelque sorte transparents à sa présence ne change rien au fait qu'il est complètement transcendant et inatteignable. Donc nous sommes ici au centre du propos. L'homme vraiment croyant est affranchi des conditions de l'être même. Dans un commentaire à un verset du Coran, dans un autre texte, Hallaj déclare, un commentaire un verset qui dit « Et il a fait de vous des rois », il commente « Il a fait de vous des hommes libres de l'esclavage de l'être, du kaun, et de ce qu'il y a dans l'être ». Alors, on pourrait penser que être libre de l'esclavage de l'être, ça signifie simplement une affirmation ascétique, vous êtes libre de l'attachement à l'être, mais d'autres passages montrent bien que Halage vise encore autre chose. Vous êtes libre de l'être parce que, d'une certaine manière, chaque être humain a quelque chose en lui qui est incréé, qui ne dépend pas, dit-il dans un autre passage, de l'impératif Kun, qui existait en Dieu en quelque sorte avant même que Dieu ait décidé d'existencier les êtres. Et donc, de quelque manière, les hommes se retrouvent, de façon analogue à Mohammed, à disposer d'une dimension prééternelle. Les hommes sont affranchis, disons, de l'humiliation du coup. Donc, tout homme, peut-on conclure, en tout cas, des passages un peu obscurs de Halage, peut, au moins en puissance, reproduire le modèle mohammedien que nous venons de voir. Alors, comment peut-on se positionner, comme un croyant peut-il se positionner entre, comme lui, en tant que simple croyant, et Mohammed, le premier émané? Et ici, Halage introduit l'exemple d'Abu Bakr. Abu Bakr, donc, qui est le premier compagnon un des premiers compagnons du prophète, un des amis les plus proches, le premier calife. Alors là, on revient ici dans le débat entre chiites et sunnites qui a été évoqué à plusieurs reprises, à savoir que cette façon d'introduire Abu Bakr est bien sûr une manière de faire pièce au chiisme. Par là, Halage annonce clairement que le compagnon du prophète le plus proche, c'était Abu Bakr, et c'est lui qui a pu imiter de façon parfaite le prophète Mohammed, parce qu'il a complètement adhéré à sa vision. Il a complètement adhéré à sa vision, et que d'une certaine manière, un soufi qui se met ainsi, de la même façon qu'Abu Bakr a adhéré complètement à ce que le prophète vit et dit, celui-là pourra devenir le compagnon et, d'une certaine manière, le calife. Donc, cette imitation du prophète passe par une construction du modèle mohammedien en soi-même. Cela suggère une destruction du soi individuel, et une expérience intérieure tout à fait hors norme. Et d'ailleurs, Halage définit lui-même comme un solitaire. Il dit bien, il suggère par là que ce n'est pas une expérience qui est reproductible. Halage est entré dans la flamme, il est pénétré dans le cercle ultime, il s'est perdu lui-même, et d'une certaine manière, il s'est trouvé parce qu'il s'est perdu. C'est en ce sens-là, parce qu'il s'est perdu, qu'il peut dire « analhaq » précisément parce que son « moi », je suis le réel, son « moi », cette capacité de dire « je » n'est plus là. Donc il devient étranger, il devient orphelin en quelque sorte par rapport aux autres, et il affirme que son expérience est encore plus significative finalement que celle du prophète, parce que lui-même est simplement un être humain, enfin en quelque sorte, et que donc son imité Halage est maintenant ce qu'il y a à faire, puisque imiter le prophète en quelque sorte. En effet, Halage interpelle après son propre lecteur, pour qui il écrit « Abandonne la création, afin que tu sois toi, lui, et lui, toi. » Lui, c'est Dieu, peut-on supposer, ou le prophète, on est souvent dans l'ambiguïté, mais dans ce cas-ci, je pense que c'est Dieu. Donc, « Abandonne la création, afin que tu sois lui, et lui, toi, sous le rapport de la réalité, de la haqiqa. » Donc, Mohammed reste le modèle de l'union, mais c'est chacun qui doit arriver par lui-même à se rendre digne de cette expérience, à devenir digne, à devenir glorieux, à devenir solitaire. Et c'est cela que Mohammed désigne que Halage désigne dans un autre texte par la famille de Mohammed, c'est-à-dire être véritablement de la famille, être de la parenté de Mohammed, non pas dans le sens de la généalogie charnelle, mais dans le sens de l'accession à un niveau de réalité supérieure proche de l'essence divine. Halage se sent investi d'un rôle par rapport à ses contemporains, c'était clair. Il dit que ceux qui cherchent Dieu doivent passer par lui, y compris ceux qui l'ont critiqué. En effet, c'est lui, l'Ihala, c'est moi, l'Ihala, qui peut décrire ce qu'il a vu. Il affirme qu'il est un des élus et que c'est lui qui peut conseiller donc les impétrants, les novices dans la voie. Qu'en est-il des autres prophètes? Hallaj, bien sûr, leur concédait une place immense, comme des gens libérés précisément de leur ego, qui maîtrisaient leur état spirituel. Mais plusieurs fragments montrent que Hallaj se mettait à la place de Moïse. Je ne dis pas qu'il s'identifiait à Moïse, mais il s'identifiait à Moïse dans une espèce de devinette. Il fait deviner Anna Moussa, je suis Moïse. Et dans un passage de Tawassim, il s'identifie au buisson ardent. Donc, pour dire ce que je dis, ce n'est pas moi, Hallaj, qui le dis, cela vient véritablement d'ailleurs, comme on l'a vu tout à l'heure. En conclusion de tout cela, on peut résumer cette position de Hallaj en quelques affirmations complémentaires. D'abord, le prophète est à l'origine du monde, il est la première théophanie, il est la face de Dieu sur la terre. Et c'est cela d'ailleurs qui permet l'union à Dieu. Comment est-ce qu'un homme pourrait s'unir à Dieu? Alors que Dieu est infini. Donc si l'homme peut s'unir à Dieu, c'est que précisément Dieu est manifesté par la forme humaine, et que cette forme humaine parfaite est celle du prophète. Donc c'est en cela qu'on voit en quoi Hallaj a pu préfigurer, comme le disait Massignon, la doctrine d'Ibn Arabi. C'est là aussi où on voit comment cette attitude se rapproche à la fois de la spiritualité chrétienne et comment, bien sûr, elle s'en différencie aussi. Simultanément, Mohammed est aussi un homme qui est venu dans l'histoire. En ce sens, il est imitable. Il a vécu, il a, de façon matérielle, on peut suivre ses comportements, on peut reproduire ses actes et rejoindre sa façon d'être en Dieu. Donc maintenant, le prophète n'est plus là. Et il faut suivre ses successeurs, il faut imiter ceux qui sont vraiment les hommes parfaits de l'époque, et donc la parole est aux successeurs de Mohammed, la parole est à Hallaj et aux autres saints. Alors, on reste au final de tout cela, devant le paradoxe de l'infini dans le fini, parce que malgré tout, Dieu reste Dieu, et l'homme reste un homme. Un jour, Hallaj rencontre un homme qui... récite la shahada au moment de l'appel à la prière. Donc le témoignage, j'atteste qu'il n'y a d'autre Dieu que Dieu, d'autre divinité que Dieu, et que Mohammed est son prophète. Et Hallaj lui dit, tu es un mécréant, al-hatta, c'est-à-dire tu es pas un athée, mais tu es un douteur. Dès lors que tu proclames l'unité de Dieu en lui associant la mention du prophète Mohammed. À moins que, bien sûr, parce que Hallaj est toujours dans le paradoxe, à moins que tu témoignes de la grandeur de Dieu et que l'envoyé du prophète guide vers cette magnificence, vers ce de Dieu. Et c'est là, poursuit Hallaj, que les cœurs, le secret des cœurs sont perdus, sont stupéfaits dans ce qu'il y a au-delà de Dieu. Or, ajoute-t-il, il n'y a rien au-delà de Dieu. Donc, la clé de ce paradoxe, c'est l'existence de l'homme divin, de l'homme parfait. Et ces hommes-là sont la clé de toute expérience religieuse, qu'il s'agisse de Mohammed et de ses lieutenants après lui, comme Hossein ibn Mansour al-Hallaj. En cela, l'enseignement de Hallaj n'est pas foncièrement différent de ce qu'ont dit les autres soufis. Du reste, vous avez entendu dans l'exposé de Leïli Anvar des considérations tout à fait proches. Simplement, à la différence des contemporains, il a peut-être été plus voyant, plus ostensible ou plus généreux. Merci.
Merci beaucoup, Pierre-Laurie. Effectivement, finalement, la boucle, ça permettait de boucler la boucle d'une certaine façon. Et donc, en plus, vous avez fait gagner le temps, la parole est à vous. On fait pareil, on prend plusieurs questions et vous répondez.
Je répondrai, et puis après, donc, Daniel.
Et après, Daniel Prou pourra venir nous parler de son travail pour le site.
J'aimerais revenir sur la première mystique pratique là dont vous aviez parlé, parce qu'il me semble qu'elle nous donne quelque chose de très simple à mettre en pratique. C'était bien en l'ambissant, j'ai bien entendu ça.
Oui,
elle disait que si on aime Dieu, il n'y a pas de place pour autre chose. Alors comment se fait-il, à 1200 ans après que cette parole eût été proférée, que nous pensions toujours encore, nous les humains, que la chair qui engendre la chair, ça peut mener à quelque part? Quand c'est que nous laisserons le Verbe se faire chair et que nous oserons aimer que Dieu et pas autre chose?
Question peut-être un peu plus terre à terre, mais est-ce que Hallaj lui-même se considérait, pour reprendre la terminologie de son maître Junaïd, comme étant quelqu'un qui est rentré dans le Fana et qui n'est jamais revenu, donc il n'a jamais été dans le Papa, ou est-ce que lui-même se considérait comme étant quelqu'un qui a fait l'alternance du Fana et du Papa?
Dans tous les exposés qui ont été faits, on insiste sur l'abandon de la raison à un certain moment. Et est-ce que l'homme parle, est-ce que quelque chose a dit sur la façon dont doit se faire cet abandon de la raison? C'est-à-dire que est-ce que c'est par un mouvement de la raison elle-même, ou est-ce que c'est par autre chose?
Je ne sais pas si j'ai une bonne question, mais j'ai lu que Muhammad voulait dire, si vous me confirmez que c'est vrai, le lieu de la louange. En faisant un peu la louange et la lumière, laquelle lumière est invisible par elle-même, mais elle rend visible. Je ne sais pas si c'est une bonne question.
Oui. Oui.
Vous citiez tout à l'heure Rumi.
Fort, on ne vous entend pas.
Vous disiez que Rumi ne va pas même jusqu'à donc, citer le prophète, puisque c'est le prophète qui parle à travers son œuvre, à travers son expérience d'annihilation. Et en l'occurrence, le prophète lui-même ne proclamant pas je suis de la réalité dans son expérience d'annihilation. C'est une critique que porte notamment, me semble-t-il, Shams à Hallaj, en tant que son manque d'observance vis-à-vis de son expérience d'annihilation. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez même?
Pardon, est-ce que vous pouvez formuler la question? Je ne vais pas reprendre la question, je suis désolé, je n'ai pas.
Il n'y a pas vraiment. Je ne sais pas si elle peut bon, soulever une question, mais. Quelle est la critique de Shams vis-à-vis de Hallaj? Je pense qu'à mon avis, peut-être.
À propos de la loi? À propos de la loi?
À propos de manque d'observance de Hallaj quand il proclame je suis.
Ah oui, d'accord, oui, tout à fait. Oui, bien sûr. Bon. Concernant Rabera et la doctrine de l'amour, comment dire, Rabera était très excessive dans sa façon de dire qu'elle n'aimait que Dieu. Ses contemporains relèvent que, par exemple, il y avait un autre grand mystique de l'époque qui lui avait rendu visite, Abdul Wahid ibn Zayd, et qui, voyant un petit enfant, l'avait pris dans ses bras. Et Rabera avait été choqué en disant « Comment peux-tu aimer quelqu'un d'autre que Dieu ?» Donc il y avait quelque chose de très extrême. Eh bien, dans le soufisme, d'ailleurs contemporain et ultérieur, l'amour des créatures n'exclut pas du tout l'amour de Dieu et réciproquement. Je pense qu'il y a dans l'épanouissement de ce qu'on peut appeler le soufisme théophanique, enfin l'idée que, au fond, tout ce qu'il y a d'aimable sur la terre, c'est une façon, on peut aimer Dieu à travers, il n'y a aucune exclusion de l'un, au contraire, il y a une conjonction de l'amour pour Dieu et de l'amour pour la créature. Il faut distinguer cela de tout le discours extrêmement présent, extrêmement fourni, de abandonner le monde, se détacher du monde, parce que se détacher du monde, c'est un autre discours qui vit à faire attention au piège, précisément, au fameux piège qui guette le novice et dont Christian Jambé parlait à l'instant. Mais je crois qu'il faut détacher les deux types de discours, disons. Alors, quant à propos du baqa, bien sûr, bon, je ne suis pas entré dans le détail du vocabulaire technique, le fana, le baqa. Bien entendu, Hallaj avait l'idée que, enfin, a professé qu'il était tout à fait sorti de cet anéantissement, que précisément, c'est parce qu'il en était sorti, qu'il pouvait non seulement parler, écrire, mais exercer un rôle de sainteté, d'un rôle d'enseignement, par rapport à la communauté musulmane contemporaine. La question de l'abandon de la raison, il faut comment dire, être très prudent, parce que la raison, d'abord, qu'est-ce que la raison? Il y a divers types d'exercices de la raison. Le sunnisme, c'est vrai, est fondé sur l'idée que dans le domaine religieux, dans le domaine de l'exégèse coranique, la raison reste un outil faible, parce que de lui-même, l'individu ne peut pas savoir quelle est la volonté de Dieu, qu'est-ce qui le mènera vers la félicité dans l'au-delà. Donc on essaye de limiter ce rôle, mais ça n'a pas du tout empêché, donc dans l'élaboration de la pensée musulmane, d'une théologie spéculative donc qui a commenté le Coran et les Écritures en fonction de raisonnement. Ça n'a pas empêché, bien sûr, le développement de ce qu'on appelle la philosophie, alors la falsafa et la philosophie islamique, et l'enrichissement de la pensée religieuse par par une approche philosophique dont Henri Corbin et puis après lui notamment Christian Jambé sur lequel ils ont beaucoup écrit, et où on voit que finalement un grand nombre de ces auteurs qu'on appelle philosophes utilisent donc toute une attitude, une approche qui est philosophique, mais dont le but final est quand même de mener vers une illumination, vers un contact avec le surnaturel. Donc il ne faut pas opposer cela dans ce domaine, contrairement à certains, bien sûr, des courants sunnites comme le hanbalisme qui préfèrent s'arrêter avant tout raisonnement. Alors, effectivement, le nom de Mohammed n'a rien à voir avec la lumière, mais par contre, il y a eu assez tôt en islam une identification de la réalité première du monde ce qu'on appelle la lumière mohammedienne. Donc à partir du verset de la lumière, le verset 35 de la sourate 24, l'idée que cette lumière qui se trouvait dans la lampe, c'était Mohammed qui était le premier créé. Alors on voit par exemple chez Tostari, un théologien mystique du 9e siècle, cette idée-là qu'avant toute chose, Dieu a créé une colonne de lumière qui s'est prosternée devant lui pendant un million d'années, et que cette colonne de lumière, c'était Mohammed. En fait, on retrouve des textes tout à fait voisins dans les traditions chiites, ou alors, ce n'est pas seulement Mohammed, mais c'est Mohammed et Ali, ou Mohammed et Ali et les autres imams qui sont cette colonne de lumière. Donc il y a bien, je ne sais pas comment on pourrait appeler ça, une doctrine de la lumière dans l'ésotérisme islamique. Et enfin, oui, la grande question de Hallaj, c'est bien sûr la discipline de l'arcane. Vous savez qu'au moment du procès, les autorités politiques ont obligé les mystiques de Bagdad à prendre position pour Hallaj et à condamner publiquement Hallaj. Et certains l'ont fait au motif que Hallaj n'avait pas à prêcher ouvertement les thèmes mystiques, que ça devait rester caché, que ce faisant, Hallaj ne faisait que brouiller l'esprit des croyants ordinaires et donc a suscité un scandale, et que donc sa faute résidait là. C'est pas seulement dans le contenu, pas vraiment dans le contenu de ce qu'il professait, parce qu'on trouve beaucoup de ses contemporains qui disaient exactement les mêmes choses, mais c'est plutôt cette façon de vouloir absolument dire à ses contemporains, vous savez, plus c'est en vous, vous avez une lumière divine en chacun de vous, cette façon très très pressante qu'il avait de vouloir convaincre les autres, et qui, de l'avis de la majorité des soufis, n'était pas une attitude adéquate.
Merci.